L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Bienvenue dans Vignes et Papilles. Pour cette troisième émission, on va parler de champagne.
Petit voyage en bulle. Alors, les bulles de champagne, comment on fait les bulles de champagne?
Alors, comment on fait les bulles de champagne? On prend du vin blanc, qui titre à peu près à 11 degrés d'alcool, et on rajoute dans ce vin blanc des levures.
Et n'importe quel vin blanc?
Alors, le vin blanc qu'ils font en champagne, donc avec les cépages qu'ils ont, donc soit le pinot noir, soit le chardonnay, soit le pinot meunier, et on rajoute donc des levures dans ce vin. Les levures vont manger les sucres qui sont présents dans le raisin, puisque le raisin est sucré, et ce processus va donner dégagement de gaz carbonique et de chaleur. Donc ça se passe quand on fait le vin normalement, mais là, comme on veut des bulles supplémentaires, on fait d'abord une première fois du vin qu'on met dans une bouteille, et dans la bouteille, on rajoute des levures. Donc à ce moment-là, dans la bouteille, il va se produire le même procédé de chauffe et de gaz carbonique, sauf qu'on ferme la bouteille avec un petit bouchon qui s'appelle un bidule. Ce qu'on appelle la prise de mousse, ça va se passer à l'intérieur de la bouteille.
Ah, l'expression bidule vient de là?
Ah ça, je ne sais pas, monsieur.
Bon, j'ai appris quelque chose.
Donc ça s'appelle la prise de mousse. Quand on fait cette prise de mousse, ça prend un petit moment, parce qu'il faut le temps que les levures mangent tout le sucre présent. Et ces levures, elles vont occasionner des dépôts qui vont se poser au fond de la bouteille. Et de façon à avoir un vin qui soit pas trouble, on va incliner les bouteilles petit à petit, régulièrement, pendant très longtemps. Donc, pour que la bouteille passe d'une position horizontale à une position la tête en bas. Donc ça se fait tous les jours. On bouge à la fois d'un quart de tour horizontal et à la fois on l'incline petit à petit. À l'époque, ça se faisait manuellement. Maintenant, ça se fait avec des machines qui le font beaucoup plus rapidement, bien sûr. Et une fois que le dépôt est complètement en bas au bout du goulot, on trempe juste le goulot de la bouteille dans une solution à moins 27 degrés. Donc on congèle tout ce dépôt de lie qui est pris en bas de la bouteille. On enlève le bouchon. Ça se fait en un quart de seconde automatiquement. On remonte la bouteille dans l'autre sens. Et il reste un petit espace qu'on remplit avec soit du vin additionné de sucre si on veut un champagne demi-sec ou doux. Et ça s'appelle la liqueur de dosage.
C'est cette étape-là où on parle de champagne à zéro dosage ou
voilà.
À dosage. D'accord.
D'accord. Donc en fait, si on rajoute rien, on a un champagne qu'on appelle soit non dosé, soit brut nature. Donc c'est des champagnes qui font moins de 3 grammes de sucre par litre. Si on rajoute un petit peu de sucre, ça va faire du champagne brut. Brut, il faut qu'il y ait moins de 12 grammes de sucre par litre. Et le champagne brut, ça représente 90% des champagnes. Donc, pratiquement tout le monde boit du champagne brut, même si on commence à avoir un petit peu la mode du non dosé. Ensuite, on peut faire du demi-sec, où on peut mettre entre 17 et 30 grammes de sucre, et du doux, où on met plus de 50 grammes, mais ça se fait plus trop. C'était à l'époque, ça. On ne boit plus des champagnes aussi sucrés.
C'était les communions dans les années 60.
Peut-être.
Voilà. Oui, alors on parle de surgélation, de congélation à moins 27. Je suppose qu'on n'a pas fait le champagne tout le temps comme ça. Alors, en fait, à l'origine du champagne, qui trouve-t-on? Où ça s'est fait? Quelle est l'histoire du champagne?
Alors, quand il y a des découvertes dans le monde, ça se fait souvent simultanément à plusieurs endroits de la planète ou d'un pays. Ceci dit, les champenois m'en voudront, mais les languedociens vont être contents, puisqu'il paraît très que le champagne serait né en Languedoc, à côté de Carcassonne, à l'abbaye de Saint-Hilaire plus précisément. Il faut savoir que tout le savoir, toute l'expérience du vin, à partir du Moyen-Âge, est passée par les moines. Bon, déjà parce qu'ils faisaient le vin de messe, et aussi parce qu'ils avaient le savoir, qui gardaient leurs expériences et tout le fruit de leur travail dans des archives écrites.
Des grimoires.
Et ils faisaient donc du vin pour faire du vin de messe. Et il se trouve que dans cette région du Languedoc, il y a un cépage qui s'appelle le Mozac, qui est un cépage qui fermente très facilement. Et ils se sont aperçus au printemps que ce cépage repartait en fermentation. Donc, il y avait des bulles et ils ne comprenaient pas trop qu'est-ce qui se passait. Et puis, ils ont goûté, ils ont trouvé que c'était pas mal. Et ils ont essayé de comprendre. Bon, après, ça a pris des années et des années. Avant de... Il y a eu des expériences, il y a eu des accidents parce que la pression dans une bouteille, etc. Donc, le fameux Dom Pérignon, qui était un moine qui venait du nord, enfin de la Champagne, et qui était venu rendre visite à ses copains du sud, est remonté chez lui, il a dit à ses collègues, « Ah ben, au fait, dans le sud, ils font ça. » Et voilà. Eux, ils ont pris plus de temps pour peaufiner ces choses-là, cette expérience-là. Et plus tard, c'est les Champenois, les premiers qui ont déposé la marque, qui ont déposé le procédé. Ce qui fait que de nos jours, on ne peut faire déjà du champagne qu'en champagne et on ne peut rien appeler champagne autre chose que du champagne. Pas de parfum, pas de couleur, pas de n'importe quoi d'autre.
Et on ne peut faire que du Limoux du côté de Saint-Hilaire.
Oui, parfaitement.
Donc, merci pour cette histoire. Et avant de passer au champagne que nous allons déguster et dont nous allons parler aujourd'hui... On va peut-être laisser notre ami Igelin nous parler de champagne.
La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet, volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, et vous pages pervers, courez au cimetière, prenez de ma part, mes amis nécrophages. Lutin, luciole, feu follet, elfe, faune et farfadet, c'est Fred, mes grands carnassiers. Une muse un peu dodue me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer, deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Ah, tu t'as marqué. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de lubriques vestales et géris insatiables chevauchant des valkyries. Infernales appétits de frénésie bacchanale qui charme nos âmes envahies par la mélancolie. Joufflu, bouc émissaire, gargouilleuse émue, fière gorgone, laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Soudain les arbres frissonnent, car Lucifer en personne fait une courte apparition. L'air tellement accablé qu'on lui donnerait volontiers le bon Dieu sans confession. S'il me laissait malicieux courir le bout de sa queue devant ses yeux maléfiques et ne se dressait un bond dans un concert de jurons disant le tout pathétique que l'état des obscènes cyniques et corrompus fasse griller de leur peine à ceux qu'ils ont élus. Car devant tant de problèmes et de malentendus, les dieux et les diables en sont venus à la douter de même.
Dédain suprême. Mais déjà le ciel blanchit. Esprit, je vous remercie de m'avoir si bien reçu.
lâchez lugubre et bossu, déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix. Décrochez-moi ces gousses d'ail qui déshonorent mon portail et me cherchez sans retard.
L'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi.
Le titre phare de ce merveilleux album Champagne pour tout le monde de Monsieur Higelin. Vous êtes toujours avec Christine dans l'émission Vigne et Papilles. Donc, on parle champagne aujourd'hui. Et donc, quels sont les différents types de champagne que vous nous conseillez et qu'est-ce qu'on peut manger avec ?
Alors, on va commencer par le champagne brut, puisque comme je disais tout à l'heure, c'est à peu près 90% de la consommation de champagne. Un champagne brut est un champagne qui a moins de 12 grammes de sucre par litre, c'est-à-dire pas énormément.
Selon le procédé que vous nous avez décrit tout à l'heure. J'espère que tout le monde suit.
Donc moi, j'ai choisi un champagne du domaine Trudon, dont on écoutera l'interview de la vigneronne tout à l'heure, qui est très, très élégant, très équilibré, qui n'est pas cher et vraiment qui a un rapport qualité-prix très, très sympa. Assez crémeux en bouche et qu'on peut boire avec des plateaux de fruits de mer, des magrets, des fromages. Vraiment, les champagnes bruts, quel que soit le domaine qu'on prend, on peut vraiment les accorder avec beaucoup de choses. Ensuite, il y a des champagnes non dosés. Donc, les champagnes non dosés sont des champagnes auxquelles on n'a pas rajouté de sucre, donc qui ont moins de 3 grammes de sucre total dans la bouteille. Ça peut être un petit peu étonnant pour certains parce que c'est vraiment pas sucré. Donc moi, je le conseille plutôt avec des desserts et plutôt des desserts sucrés ou des choses un peu crémeuses parce que c'est quand même un peu plus acidulé que le champagne normal. Donc là aussi, le domaine Trudon fait un champagne non dosé qui est tout à fait sympathique et très, très bon. Ensuite, on a le champagne rosé. Le champagne rosé, c'est un champagne qui peut être fait de deux façons, soit par assemblage, c'est-à-dire qu'on va rajouter entre 5 et 20% de vin rouge au champagne. Donc c'est la seule appellation où on a le droit de mélanger du vin rouge et du vin blanc pour faire du rosé, alors que dans les autres appellations...
Nous l'avons suffisamment dit dans une précédente émission, on ne fait pas le rosé comme ça, sauf le champagne rosé.
Ou alors on fait un champagne de macération, c'est-à-dire qu'on laisse les raisins à peau noire macérer pendant 36 heures et ça colore le champagne.
Puisqu'on nous a dit, on découvrira tout à l'heure dans l'interview qu'on peut faire donc, du champagne avec des raisins à peau noire, mais qui en fait font du jus blanc.
Oui, en fait, dans le champagne, les principaux cépages donc, sont le pinot noir, le pinot meunier et le chardonnay. Le chardonnay, c'est un cépage blanc à jus blanc. Jusque-là, ça va. Le pinot noir et le pinot meunier sont des cépages noirs, mais qui ont la peau très très fine. Donc comme ils ont la peau très très fine, elle n'a pas le temps de colorer le jus. C'est ce qu'on appelle des raisins noirs à jus blanc.
Mais la peau est suffisante quand même pour pouvoir justement colorer un peu le champagne en cas.
Oui.
D'accord.
Si on laisse macérer assez longtemps, oui. Ensuite, on peut faire du blanc de blanc. Donc c'est du champagne fait avec du chardonnay, qui est un cépage blanc. Donc ça s'appelle du blanc de blanc et pas du champagne blanc parce que c'est un vin blanc fait avec des raisins blancs. Et ensuite, on peut faire du blanc de noir qui est donc un champagne qui a une couleur blanche qui est faite avec des raisins qui ont la peau noire et fine.
Et donc la nuance entre blanc de blanc, blanc de noir et champagne
C'est du champagne, mais c'est au niveau des arômes, c'est-à-dire que les blancs de blanc vont être plus fins, plus équilibrés, plus légers en bouche. Et les blancs de noir, ils vont être un peu plus charnus. On pourra plutôt les déguster avec des choses ou de la viande ou des choses un peu plus costauds. Alors que les blancs de blanc, ça va être plutôt pour des choses comme des crevettes, des écrevisses, des choses un peu plus élégantes.
Et on continue la gamme.
Voilà. Ensuite, le demi-sec, donc, qui a entre 17 et 32 grammes de sucre, qu'à l'époque, on mangeait avec le dessert, qui maintenant, à mon avis, serait mieux avec du foie gras. ou du roquefort ou des choses comme ça pour tempérer le côté salé ou le côté gras des aliments. Et ensuite, il y a le champagne doux qui fait plus de 50 grammes de sucre. Et donc ça, c'est pratiquement, ça existe pratiquement plus. Ceci dit, si vous avez un champagne doux, vous pouvez effectivement aussi l'accorder avec du foie gras, avec du roquefort, avec des choses comme ça, pour que ça enlève tout le sucre qu'il y a, ou une tarte à la rhubarbe, ou des choses acidulées un petit peu.
Avec 90% du marché occupé par le brut, effectivement, ça laisse assez peu de place pour tous les autres.
Oui.
On a fait le tour de la gamme. Et alors, tous ces champagnes-là, on est toujours dans la maison Trudon ou est-ce qu'on les trouve aussi chez d'autres?
Alors, on les trouve chez... Oui, on les trouve bien sûr chez d'autres. Moi, j'ai un petit faible pour le rosé, le champagne rosé de Drapier. Drapier, qui est une maison française très ancienne. Une des rares maisons françaises pas rachetées par des banques ou des gros groupes, donc qui perpétuent la tradition. C'était d'ailleurs le champagne préféré du général de Gaulle. Et ils font un rosé. Ils font un rosé. Ils ont une cuvée de Gaulle, d'ailleurs, qui est très rigolote avec monsieur le président avec son képi sur l'étiquette.
Ah, ils ont encore une cuvée de Gaulle.
Ils ont encore une cuvée de Gaulle. Et moi, je trouve que chez eux, les deux cuvées qui réussissent le mieux, c'est celle qui est non dosée et le rosé. Ils ont vraiment. Ils sont très, 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 très bons là-dessus. Et ensuite, pour d'autres conseils sur d'autres champagnes, si vous cherchez un champagne qui est vraiment très, très élégant, encore plus fin, Tétinger, c'est vraiment quelque chose de très, très bien fait, de très joli.
Alors là, on est vraiment dans la très grande maison,
voilà,
très connue.
Voilà, à ce moment-là, c'est des maisons plus connues. Alors, je ne sais pas si... Je pense que ce n'est plus familial, mais c'est entre les deux, mais effectivement avec d'autres moyens et d'autres technologies, parce que ce qui est le plus compliqué à faire dans le champagne, c'est la bulle, en fait. Et pour avoir des bulles parfaites, qui soient bien calibrées, bien dosées, bien élégantes et bien agréables en bouche, il faut vraiment de la technicité, prendre les bonnes levures, etc. Donc ça demande des moyens et puis certainement des œnologues qui sont très, très, très compétents.
Alors, on raconte que le verre dans lequel on boit le champagne, c'est quelque chose d'important. Alors, une fois pour toutes, le débat, le champagne, en coupe ou en flûte?
Pour moi, en flûte, parce que si on veut garder les bulles et les arômes, dans la coupe, comme c'est large, ça va partir. Alors que maintenant, la mode, et je pense que ça me paraît logique, c'est des flûtes qui sont légèrement resserrées en haut, de façon à ce que vous ayez les bulles qui ne s'échappent pas aussi vite, et aussi les arômes qui se concentrent, puisque comme il y a un resserrement au niveau du haut du verre, eh ben, les molécules aromatiques sont un petit peu plus emprisonnées que si dans une coupe où ça part dans tous les sens.
Eh bien, merci pour ce tour d'horizon des différents champagnes et ces précieux conseils d'accord champagne et mets à déguster avec. Nous allons tout à l'heure faire un petit tour du côté de la Marne, donc au domaine Trudon dont nous avons parlé plus précisément. Et puis, en attendant, on va faire un petit tour du côté de Paris au petit matin.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne les cars, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
Dutronc, il est 5 heures, Dutronc, son cigare d'une main et sa coupe de champagne de l'autre, on peut dire aujourd'hui. Nous parlons champagne dans Vignes et Papilles et nous allons partir donc du côté de la région Champagne, dans la Marne, précisément au domaine Trudon. Cette rencontre avec le domaine Trudon, Christine, comment ça s'est passé ?
Ça s'est passé sur un salon de vin à Paris où je cherchais des vins pour ma boutique. Et ben, j'ai visité plusieurs stands et j'ai beaucoup aimé leur champagne parce que je les ai trouvés un peu différents des autres, moins acides surtout que les trois quarts des choses que j'ai dégustées sur le salon. Ils m'ont été recommandés par quelqu'un chez qui j'avais dégusté, et bon, qui faisait des prix trop chers pour ce que moi je voulais vendre. Et vraiment, c'est des gens charmants qui travaillent tout à fait bien et qui travaillent particulièrement le cépage du Pinot Meunier, qui est aussi assez rare. Enfin, c'est pas que c'est rare, c'est qu'en général, le champagne étant un vin d'assemblage, les gens en Champagne mettent beaucoup de Pinot Noir et de Chardonnay. Et le Pinot Meunier est un peu moins connu et un peu moins exploité. Et eux, ils travaillent particulièrement ce cépage. Et je trouve que ça donne des belles choses.
Alors, nous avons réalisé donc une petite interview par téléphone de Hélène Trudon qui va nous amener dans son domaine et qui va nous en parler. Bonjour Hélène.
Bonjour, bonjour et merci de m'accueillir. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui.
Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et présenter votre domaine ?
Oui, alors je suis Hélène, donc l'épouse de Jérôme Trudon. Quatrième génération de vignerons à Festigny dans la Marne. Nous sommes vignerons indépendants, c'est-à-dire que nous élaborons nous-mêmes nos champagnes de A à Z, de la vigne à la flûte, sur un domaine de 7,5 hectares en viticulture raisonnée et certifiée HVE. Mon mari est œnologue, il travaille la vigne et le vin, et puis pour ma part, je m'occupe plus de la partie administrative et de la relation avec les clients.
Et alors ce domaine, il est composé de combien d'hectares par exemple ?
Alors nous avons 7,5 hectares. Voilà.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de ce domaine ?
Oui, alors c'est un domaine qui a été créé par donc l'arrière-grand-père de mon mari dans les années 1920. Voilà, donc ça fait presque un siècle, enfin on date ça à peu près de 1925-26. Il était à l'époque, son arrière-grand-père tenait un café dans le village et il a acquis des parcelles petit à petit.
Alors nous sommes dans quel village, excusez-moi ?
Le village de Festigny.
Festigny, d'accord. C'est qui est dans le département de ?
De la Marne.
De la Marne, ok. Donc il tenait un café, le grand-père.
Oui. Tout à fait, l'arrière-grand-père. Son grand-père a continué à acquérir quelques lopins de vignes tout en ayant un deuxième métier. Et puis c'est ensuite dans les années 1970 que mes beaux-parents ont repris et ont développé le vignoble, la commercialisation. Et puis maintenant, c'est à notre tour.
Très bien. Ça s'est passé par l'acquisition de vignes existantes ou est-ce que vous avez planté ?
Alors, c'était à l'époque, c'était des champs, c'était des bois, donc il a fallu planter, effectivement, chaque génération a planté, et même nous, aujourd'hui, on continue à planter, à renouveler régulièrement le vignoble. C'est un vignoble qui a 35 ans de moyenne, mais il y a des vignes qui ont 60 ans, et puis d'autres qui ont 4 ans, voilà, qu'on a planté en 2020 au moment du Covid.
D'accord.
Donc voilà, il faut régénérer le vignoble régulièrement pour éviter le dépérissement et puis éviter les maladies aussi.
Sur quel type de terroir nous sommes ?
Alors, à Festigny, donc dans notre village, on est sur un vignoble de coteaux. En fait, en Champagne, vous savez, c'est le vignoble le plus septentrional de France. Donc, on n'a pas autant de soleil que chez vous. Donc, il faut qu'on profite de l'inclinaison des coteaux pour avoir de l'ensoleillement. Et donc, on est sur un terroir de coteaux et sur de la craie, comme partout en Champagne.
D'accord.
Et puis, dans notre secteur de la vallée de la Marne, on a aussi une couche d'argile sur cette craie. Donc on est sur un terroir argilo-calcaire. Ça permet une régularité, de réguler l'humidité dans le sol, et ça apporte aussi de la finesse aromatique dans les vins.
Très bien. Et alors, qu'est-ce qu'on cultive comme cépage sur ce terroir ?
Alors, en Champagne, on a la possibilité de cultiver 7 cépages, mais les 3 principaux sont le Pinot Noir, le Meunier et le Chardonnay.
Mmh.
Alors, le Pinot Noir et le Meunier sont des raisins noirs à jus blanc, et le Champagne est un raisin blanc à jus blanc. Donc, en Champagne, on a la particularité vraiment d'élaborer des vins blancs avec des raisins noirs. C'est vraiment original. Voilà, d'avoir des raisins noirs pour faire du vin blanc.
Effectivement, c'est pas courant, oui, effectivement.
Non, c'est pas courant. À Festigny, donc sur notre terroir, qui est argilo-calcaire, comme je disais, on est sur le meunier principalement. C'est 90% du vignoble est planté en meunier. On a aussi 6% de pinot noir et 4% de chardonnay. Et donc le meunier, en fait, sa particularité, c'est d'être sur le fruit, surtout.
D'accord, ce qui veut dire que les champagnes que vous élaborez sont pratiquement du monocépage, quoi.
Alors, on fait quand même des assemblages, et on a des monocépages, et voilà, on peut s'amuser. En Champagne, on a beaucoup de liberté au niveau des assemblages de cépages, de types de vinification, en cuve inox, en fût de chêne. Voilà, on a des assemblages d'années différentes aussi. Donc on a une certaine liberté, mais c'est vrai qu'on a principalement du meunier dans nos cuvées.
Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les différentes cuvées de votre gamme ?
Alors, on élabore 7 champagnes, avec principalement les cuvées Emblématis, Cinégramme et Roséphile. Donc, ce sont des noms un petit peu évocateurs de l'identité de la cuvée. Donc, Emblématis, c'est notre champagne emblématique, notre champagne traditionnelle. Donc là, c'est un assemblage de 85% de meunier et 15% de pinot noir, avec un vieillissement de 3 ans en cave. Le vieillissement, c'est vraiment important pour apporter un développement aromatique plus poussé. Donc, c'est un champagne assez rond, assez souple, très agréable à l'apéritif ou lors de moments festifs. Voilà. Ensuite,
on est plutôt dans la tradition, là, c'est ça ?
Oui, là, c'est traditionnel dans le sens, voilà, c'est un brut. Rond, souple, assez assez très agréable pour les moments, toutes occasions, en quelque sorte.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Ensuite, nous avons notre cuvée Cinégramme en dosage zéro. Alors là, c'est un petit peu plus technique. Il y a un petit jeu de mots aussi sur le nom de la cuvée, Cinégramme. Donc, ciné dans le sens 100 en latin, donc, et gramme, la quantité de sucre qu'on ajoute à la fin du processus d'élaboration. Donc, 101 grammes de sucre ajouté.
D'accord.
Au moment du dosage. Donc, là, c'est un champagne pur, frais, avec une belle longueur en bouche et plus adapté pour, encore une fois, les apéritifs avec des petits fours, mais aussi des entrées de poissons, de crustacés. On a un petit côté salin qui va ressortir et donc qui est très adapté au côté iodé des fruits de mer ou des poissons.
Et donc, et puis, très très sec, je suppose.
Plus sec, effectivement, mais qui reste quand même fruité, dans la mesure où on a une majorité aussi de meunier. Et donc, ça reste fruité et on n'a pas la sensation de sec dans la bouche. C'est vraiment construit de manière à ce que ça puisse se passer de dosage. Voilà, ça puisse se passer de sucre.
Très bien. Et donc, puis, il y a une troisième gamme, c'est ça?
Le troisième champagne, c'est Roséphile. C'est un champagne rosé. Donc, Roséphile, encore un petit jeu de mots pour les amateurs de rosé. On aime bien s'amuser avec les noms des cuvées. Et donc, c'est un champagne rosé. Donc, c'est une petite note de fruits rouges. C'est subtil. C'est pour accompagner un dessert aux fruits rouges ou même, bon, bien sûr, un apéritif aussi. Ou alors une viande rouge légère ou du saumon. C'est toujours intéressant d'associer les couleurs. Couleurs de plat, couleurs de vin, c'est amusant.
Très bien. Donc, comme aurait dit Bachung, oser rosé fine.
Voilà. Oui, exactement.
Vous écoulez votre champagne exclusivement en France ou vous êtes aussi sur le marché de l'export?
Alors non, en fait, on commercialise 45 000 bouteilles par an à peu près et on expédie environ 40% à l'export.
D'accord.
Vers les États-Unis, vers le Japon et puis après sur des marchés européens comme l'Italie, la Belgique et l'Autriche. Voilà, donc 60% en France et 40% export à peu près.
Ok. Et donc, dans ces 60% France, il y a Sainte-Afrique. Mais on y reviendra un peu plus tard.
Oui.
Comment se porte le marché du champagne aujourd'hui? La filière vigneronne, on sait qu'on a quelques difficultés. Dans quelle mesure êtes-vous impacté par ces difficultés ou pas?
Si, oui, on est impacté aussi parce qu'en fait, le champagne, c'est quand même un vin de célébration donc qui est, dont les ventes sont vraiment liées au contexte économique et politique français ou mondial d'ailleurs, puisqu'en fait, la moitié des champagnes qui sont produits partent à l'export. Donc voilà, on est très impacté par tout ce qui se passe en France et dans le monde. Et aujourd'hui, depuis 23-24, on a une baisse des ventes qui est liée à une très très forte hausse des ventes au moment de la reprise après Covid. En fait, les importateurs ont stocké beaucoup par crainte d'avoir des problèmes d'approvisionnement liés au Covid. On a tous entendu parler de problèmes de bouteilles en verre qui n'étaient pas livrées, des différentes pénuries de
matières premières, voilà, qu'on a tous connues à ce moment-là.
Exactement, ouais. Exactement. Et donc, parallèlement à ça, donc il y a eu surstockage par crainte, voilà, de ne pas avoir de stock. Et puis parallèlement à ça, la guerre en Ukraine a été déclarée. Ça a créé des incidences au niveau du prix de l'énergie, de l'inflation. Et puis ensuite, un élément supplémentaire, c'est que 2024 a été une année d'élections un petit peu partout dans le monde, aux États-Unis, dans plusieurs pays d'Europe, en France. Et donc les consommateurs restent un petit peu attentistes et attendent de voir un petit peu ce qui se passe. Alors ça n'est pas forcément très favorable au champagne.
Et alors du coup, comment vous envisagez un petit peu l'avenir de votre domaine, étroitement lié bien sûr à l'évolution de cette filière, mais je sais pas, si vous vous projetez dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, comment vous voyez le domaine Trudon?
Eh bien écoutez, oui, c'est vrai que alors nous, dans la filière, on s'inscrit vraiment dans la filière champagne qui a connu des hauts et des bas, hein, mais qui a toujours su rebondir en quelque sorte, enfin qui a essayé de s'adapter au fil des ans. Et puis nous, à notre échelle, on essaie aussi de s'adapter au niveau des pratiques culturelles dans la vigne. au niveau aussi des attentes de la société, qu'on s'adapte aussi par rapport au dérèglement climatique, quand même à continuer à développer nos champagnes et puis aller faire à trouver des partenaires cavistes ou importateurs pour à apporter un petit peu de joie au moment de l'ouverture d'une bouteille de champagne, que ce soit en France ou à l'étranger.
Et alors, vous parliez d'agriculture raisonnée, un projet de conversion en bio, d'aller un peu plus loin, ou est-ce que ce n'est pas à l'ordre du jour pour vous ?
Alors, pour le moment, on est HVE depuis quelques années. Après, le bio, ça reste assez compliqué en Champagne parce que le climat est très, très capricieux. Pour l'instant, on est sur le HVE qui a quand même quelques avantages. Limiter les intrants, donc par exemple les fertilisants, les produits phytosanitaires. Donc là, on a quand même déjà des règles assez avancées. Le bio, c'est important, mais les productions sont moins conséquentes. Donc ça peut être dommageable pour la pérennité de l'entreprise aussi. Donc,
Est-ce que vous sentez que ça répond à une demande du côté des consommateurs ou pas plus que ça ?
En fait, j'ai l'impression que voilà, les consommateurs mettent le champagne un petit peu à part, donc ne se posent pas trop la question. Bon, le champagne reste un vin de champagne, donc effectivement, il est aussi lié à ces problématiques, donc faut se poser la question, mais le consommateur n'en émet pas trop la demande.
Eh bien, écoutez, merci en tout cas de nous avoir fait voyager sur vos terres argilo-calcaires de la Marne.
Merci.
Je ne sais pas quel temps vous avez, mais ici on a un grand soleil, on vous en envoie un peu. Voilà.
Oui, volontiers, parce qu'aujourd'hui c'était une journée pluvieuse, donc oui, avec plaisir, j'accepte beaucoup vos rayons de soleil.
Eh bien, merci en tout cas, et puis on vous souhaite une longue vie à votre domaine.
C'est gentil, merci beaucoup et joyeuses fêtes à tous.
Merci beaucoup, au revoir. Retour à Sainte-Afrique après cette petite séquence champenoise et ce tour d'horizon donc des différents champagnes et de tous ces conseils qui nous ont été dispensés par Christine. Qu'est-ce qui reste à dire à nos auditeurs ?
Eh bien, bonne fête. Vous pouvez boire du champagne avec modération. Régalez-vous.
À très bientôt et bon champagne à tout le monde.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. À quoi tu